Semaine Sainte 2020. En ce mardi saint, nous retrouvons l'abbé Philippe Beitia. Bonjour.
Bonjour.
Alors nous allons nous attacher aujourd'hui à parler des textes qui sont proposés dans la liturgie pour ce mardi saint. Commençons peut-être par l'acclamation qui précède l'évangile. Je la lis. « Salut au Christ notre roi, obéissant au Père, comme l'agneau vers l'abattoir, tu te laisses conduire à la croix. » Un mot sur cette acclamation qui nous dit bien le sens du sacrifice du Christ.
Cette acclamation, c'est ce qu'on appelle un centon. C-E-N-T-O-N. C'est-à-dire que on unit deux textes de la parole de Dieu qui ne le sont pas. Bon, vous avez reconnu, bien sûr, une réminiscence, une allusion à l'hymne philippien, obéissant jusqu'à la croix. Voilà. Et puis, il y a effectivement la mention de l'agneau qu'on mène à l'abattoir. Vous retrouvez cela notamment dans le livre de Jérémie. Il y a les plaintes de Jérémie, et il dit, et donc une opposition de sa famille, et d'autres gens, et il dit qu'il est comme l'agneau que l'on mène à l'abattoir. Donc voilà. Et bien entendu, l'Église, à travers cela, fait, si je puis dire, d'autres allusions. Cet agneau qu'on mène à l'abattoir, c'est aussi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Dans le temple de Jérusalem, il y avait, dit-on, la reproduction d'un agneau doré. C'est aussi un agneau vainqueur, mais que nous trouvons aussi dans les textes de la parole de Dieu, notamment dans l'Apocalypse. Vous voyez, il y a donc un tas de significations que l'Église suggère à notre méditation, à notre contemplation, dans la prière, puisque la liturgie exprime sa foi. Donc voilà, cela nous indique la figure de l'agneau, nous indique la docilité de cet animal, et donc elle nous indique la docilité de Jésus au Père, la mission qu'il a reçue de son Père. La figure de l'agneau indique, bien sûr, nous rappelle les sacrifices du temple, où on offrait des agneaux, et bien sûr, elle évoque ce sacrifice qui accomplit, nous dira la liturgie aussi, tous les sacrifices de l'ancienne loi, voire même de la religion naturelle, puisque dans le canon romain, voilà, on parle du sacrifice d'Abel, religion naturelle, du sacrifice de Melchisédek, peut-être quand les religions ont tenté d'approcher Dieu avec leur sacrifice. Voilà, elle accomplit, le sacrifice du Christ accomplit un peu tout cela. Et bien sûr, l'agneau, nous disions à l'instant, c'est aussi l'agneau égorgé, toujours vivant et debout, de l'Apocalypse. Ben, cet agneau de l'Apocalypse qui nous rappelle, bien sûr, puisqu'il est égorgé, qui nous rappelle la passion du Christ, mais il est vivant et il est debout. Et bien sûr, ça nous rappelle sa résurrection, son triomphe sur les puissances de la mort, sur la fameuse trinité diabolique, le péché, la chair, la fragilité de l'homme et le démon. Et d'un point de vue culturel, bien sûr, il y a le fameux tableau de l'agneau mystique dans l'église de Saint-Bavon en Belgique, qui illustre de manière splendide un peu cela.
Dans la liturgie de ce mardi saint, c'est un passage de l'évangile de Saint-Jean qui est retenu, un passage qui nous annonce la trahison de Judas et le reniement de Pierre.
Voilà, nous annonce. Vous parliez l'autre jour de mise en scène, si mes souvenirs sont bons, de la passion. Et donc, voilà, depuis quelque temps, a lieu, si je veux dire, cette mise en scène. Déjà, avec, quand on a lu l'évangile de la résurrection de Lazare, qui a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Bon, samedi, nous lisions le complot des chefs religieux juifs, bon, suite à cette résurrection de Lazare. Bon, voilà, il vaut mieux qu'un seul homme meure plutôt que tout le peuple. Donc, un calcul politique, on supprime ce gêneur de Jésus pour pas que la puissance romaine vienne faire des victimes. Et puis là, bon, en s'approchant de ces événements, de la scène du jardin de Gethsémani et de la passion, ben voilà, on campe un peu le décor. Et donc déjà, on nous annonce la chute de Pierre et la trahison de Judas.
Alors nous allons parler de Judas demain, mais aujourd'hui, nous allons plutôt parler de Pierre, le premier pape de l'Église, qui était quelqu'un qui avait du caractère.
Pierre n'est pas le premier pape. Pierre est l'apôtre. Ses successeurs sont les papes. Mais il s'en distingue, même s'il est le premier de la lignée, mais c'est l'apôtre. Bon. Mais enfin, laissons cette question de côté. Bon. Pierre, il est un peu tout feu, tout flamme. C'est sûrement un homme d'une grande générosité. Mais il est tout feu, tout flamme. Ben, par exemple, lors de la transfiguration, il faut monter 3 tentes pour que ça se poursuive. Quand Jésus parle de sa passion, pour Pierre, il reprend Jésus, ce qui n'est pas rien. Il ne peut pas en être question, pour Pierre. Et quand Jésus explique un peu ce que sera sa passion et annonce un peu la défection de tous les siens, « Ah ben non, moi je tiendrai le coup », dit en définitive Pierre. Voilà, c'est un homme un peu tout feu, tout flamme. Mais, de ce fait, il se censure, il a des paroles pleines d'assurance, mais dans le fond, quelque part, son cœur est un cœur indécis. Les paroles qu'il dit sont bien sûr sincères et manifestent l'amitié et l'attachement pour le Christ, mais elles n'expriment pas la vérité. Nous aussi, nous sommes sincères. Nous exprimons ce qui est à la surface, ce qui est immédiat, mais il arrive que nous ne soyons pas vrais, que nous n'exprimons pas ce qui se trouve dans les profondeurs intimes. Et donc voilà, être authentique, être pleinement soi-même, eh bien voilà, on ne peut pas l'être que à moitié. Et parfois, ce que nous disons ne correspond pas à la vérité de notre moi profond. Voilà. Donc là, Pierre exprime des choses, mais dans le fond, il n'est pas encore capable de les vivre.
Quelle est la différence entre renier et trahir ? Judas va trahir, Pierre va renier le nom de Jésus.
Il y a une différence on pourrait dire aux conséquences. Aux conséquences. C'est-à-dire que Pierre va renier après avoir tout feu tout flamme dit que lui tiendrait le coup et que, bien sûr, il soutiendrait Jésus, dans la cour du grand prêtre, où il essaie de voir comment les choses tournent quand même, à 3 reprises, devant la servante, et puis devant des gens qui se trouvent là aussi, il dit « Je ne connais pas cet homme ». Et il y a ensuite le regard de Jésus. Le regard de Jésus, quand Jésus passe, il se tourne la tête et il regarde Pierre. Donc c'est volontaire de la part du Seigneur. Et donc Pierre se met à pleurer. Donc il se rend compte que il n'a pas été cohérent. Et puis, plus tard, mais après la résurrection, Pierre va en définitive réparer. Enfin, Jésus va lui faire réparer. Ça n'a pas dû être rien.
C'est Simon, m'aimes-tu ?
Simon, m'aimes-tu ?
Au bord du lac,
voilà.
Lors d'une apparition de Jésus quand il est ressuscité.
À trois reprises.
Comme par hasard.
Comme par hasard, bien sûr. Voilà, ça... Et on nous dit que la troisième fois, Pierre est peiné. Tu sais que je t'aime. Et tu sais que je t'aime vraiment.
Abbé Philippe Beitia, Pierre, tout feu, tout flamme, n'est pas au pied de la croix le vendredi saint.
Au pied de la croix, le vendredi saint, ce sont les femmes qui ont tenu bon. La Vierge Marie, mère du Christ, ça n'a pas dû être rien, parce que très sûrement, elle a vu son fils mourir. Saint Jean nous dit qu'elle était debout physiquement, mais sûrement spirituellement et moralement. Elle a dû être insultée, étant la mère de ce condamné. On nous parle de Marie-Madeleine, on nous parle d'une autre Marie. Bon, elles ont tenu bon. Et certaines d'entre elles, on va les retrouver au matin de Pâques. Elles vont vouloir embaumer le corps. Les messieurs, bien moins. Bon, Jean, l'évangile nous dit qu'il était connu du grand prêtre. Donc il avait ses entrées dans le palais du grand prêtre. Et il va en profiter. Mais bon, il y a eu quand même un petit moment de retrait de Jean. Mais, à la fin des fins, Jean se trouve au pied de la croix.
Tous les autres ?
Et tous les autres se sont mis au vert, si on peut dire. Il est sûr que, après les chauffourées du jardin de Gethsémani, durant la nuit, des torches, des gens armés, on coupe l'oreille du serviteur du grand prêtre, Jésus le guérit, des dialogues quand même malgré tout assez tendus, et on nous dit que tous fuient. Et pour certains, ils ont dû en rester là. Peut-être ont-ils regardé de loin, mais l'Écriture ne nous le dit pas.
Demain, nous poursuivrons cette méditation de la Semaine Sainte. Nous parlerons de Judas. Merci, Abbé Philippe Beitia.